Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat en direct, chacun de nos invités étant chez soi et nous-mêmes depuis la maison de Radio France. À l'ordre du jour ce soir, les statues meurent-elles aussi ? Un documentaire commandé en 1953 par la revue Présence africaine, signé Alain René, Chris Marker et Ghislain Cloquet, débuté par cette sentence. Quand les hommes sont morts, ils entrent dans l'histoire. Quand les statues sont mortes, elles entrent dans l'art. Cette botanique de la mort, c'est ce que nous appelons la culture. Ce film, longtemps censuré, c'était Les statues meurent aussi. On y parlait des œuvres africaines entrées dans les musées européens. Mais qu'en est-il des statues élevées sur nos places et au coin de nos rues, doivent-elles mourir aussi et laisser la place à d'autres représentations du passé dans nos espaces publics? Le débat a été relancé récemment aux États-Unis avec le mouvement Black Lives Matter, mais aussi en France avec deux statues de Victor Schœlcher abattues le 22 mai en Martinique, ainsi que d'autres taguées ou dégradées de Gaulle ou de Gambetta en métropole. Nous allons débattre de ces questions avec Emmanuel Furex, il est historien, professeur à Paris-Est Créteil, auteur entre autres de L'œil blessé, politique de l'iconoclasme après la Révolution française, aux éditions Champvallon en 2019. Nous aurons également avec nous Anne Lafon, elle est directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, et son livre « Les Noirs, le noir et la race, l'Africain tout contre l'œil des Lumières » est paru aux presses du Réel en 2018. Avec nous également Isabelle Barberis, maître de conférence HDR en art du spectacle à Paris 7 Denis Diderot, autrice de l'art du politiquement correct en 2019 aux presses universitaires de France et qui a coordonné avec Nathalie Haniche un numéro de Cité intitulé « Nouvelle censure » qui vient tout juste de sortir. Bonsoir Anne Lafon.
Bonsoir.
Bonsoir à vous Isabelle Barberis.
Bonsoir.
Et bonsoir à vous Emmanuel Furex. Merci d'avoir accepté de débattre de cette question qui agite beaucoup les milieux de l'art, mais également les milieux politiques aujourd'hui. Emmanuel Furex, vous avez travaillé depuis longtemps sur cette question de l'iconoclasme. Vous organisez d'ailleurs à Paris 1 un séminaire autour de cette question de l'iconoclasme. Et vous avez coordonné il y a déjà un certain temps un très bel ouvrage chez Champvallon qui précédait votre ouvrage L'œil blessé, qui s'intitulait Iconoclasme et révolution de 1789 à nos jours. Donc vous pouvez inscrire ce qui se passe dans le temps long de l'histoire d'une certaine façon. Est-ce que ce que vous voyez, ce que vous entendez aux États-Unis, en France, partout, à propos de ces statues qu'on veut déboulonner ou qu'on déboulonne ou qu'on tague, vous surprend, Emmanuel Furex ?
Alors bonsoir tout d'abord.
Bonsoir.
Non, ces contestations ne me surprennent pas, il faut les inscrire dans l'histoire. Il y a deux façons de mourir pour une statue. Évidemment, elle peut mourir à coup de massue, à coup de déboulonnage, mais elle peut aussi mourir de ne pas être regardée. Et c'est un peu ce qui s'est passé depuis des décennies, c'est-à-dire que nous passons à côté des statues sans les observer, sans comprendre ce qu'elles nous disent, ce qu'elles imposent aussi parfois, car une statue est aussi un objet de pouvoir, et de ce fait, les événements que nous vivons en ce moment agissent comme un révélateur de d'un passé qui était enfoui. Alors sur la question maintenant des contestations sur la très longue durée liées aux images publiques et en particulier donc aux statues et aux statues de grands hommes, de fait nous avons une histoire très très mouvementée, agitée par les révolutions et contre-révolutions, prolongée par les drames du XXe siècle. Je rappellerai, et peut-être que certains auditeurs ne le savent pas, que le moment le plus destructeur de statues de grands hommes a été la Deuxième Guerre mondiale, lorsque, sous le régime de Vichy, plus de 1500 statues, alors pas toutes de grands hommes, ont été fondues pour servir à l'effort de guerre allemand, mais aussi évidemment avec en arrière-plan une volonté d'éradiquer tout un paysage statuaire de la Troisième République. Voilà, quant au 19e siècle, tu pourrais y revenir bien volontiers.
On y reviendra
si vous le souhaitez.
Avec vous, Anne Lafon, vous qui êtes historienne de l'art, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, vous avez beaucoup travaillé aussi sur le 18e et le 19e siècle. Est-ce que ce que nous vivons vous a surprise?
Pas tant que ça non plus. Enfin, je reprendrai un petit peu ce que vient de dire Emmanuel Furec, c'est-à-dire que ce sont des mouvements de rapport à l'histoire, de rapport à l'espace public partagé, qui sont assez récurrents finalement dans l'histoire de France et ailleurs. Moi, ce que ça m'a évoqué, peut-être parce que c'est une période aussi que je connais le mieux, mais c'est vraiment la fondation d'un des premiers musées nationaux en fait en France, autour de la figure d'Alexandre Lenoir, qui justement entre 1789 et 1794, donc voyant la geste, enfin le vandalisme finalement vis-à-vis des insignes du passé, et notamment de l'ancien régime au début de la Révolution, décide de créer un petit dépôt dans le couvent des Augustins, enfin ci-devant couvent des petits Augustins, où il pourra rassembler en fin de compte les vestiges de l'ancien régime, les conserver pour pouvoir les documenter, et sachant que par-delà finalement leur charge politique, celle qu'elles avaient encore dans l'espace public, il y avait une nécessité finalement d'en prendre soin et de les transmettre, ne serait-ce que comme mémoire. Et donc je dirais que par rapport à la citation que vous avez introduite en début d'émission autour du fait que l'art, enfin les statues, lorsqu'elles meurent, elles deviennent de l'art, je dirais qu'elles deviennent du patrimoine en fin de compte.
Oui.
Et c'est une manière aussi de les requalifier, qui est un mouvement qui habite l'histoire de France, et d'ailleurs pas seulement l'histoire de France, qui est tout à fait normale. Après, avec les tensions que ça implique, mais c'est aussi à ces moments-là qu'on voit l'attachement même à l'histoire, et l'attachement au projet d'histoire aussi, je dirais. Donc non, je ne suis pas tant surprise, ça prend des formes plus ou moins violentes, mais finalement qui m'apparaissent assez mesurées par rapport à ce temps en plus de confinement que nous avons eu avant, où je vois que finalement c'est assez raisonnable. Moi, ce que ça m'a aussi évoqué, c'est en 2005, on a eu le droit à des émeutes comme ça de la jeunesse, à la suite aussi de meurtres troubles, et qui ont donné lieu au fait de brûler des voitures en bas de chez soi. Et ben, il me semble qu'aujourd'hui, en 2020, ce rhabillage des statues, ou ce déboulonnage des statues, est une autre manifestation encore plus civique et encore plus impliquée dans l'histoire de France, que l'on doit remarquer plutôt comme un événement positif, je dirais, pour notre communauté nationale.
Parce que la plupart de ces statues se trouvent dans des centres-villes, en particulier anciens, comme on dit, de nos villes. Isabelle Barberis, est-ce que vous avez été vous-même surprise par ce qui se passe, et quelle est l'interprétation que vous donnez à ces faits que nous vivons, et que nous vivons d'ailleurs de manière simultanée d'un côté et de l'autre de l'Atlantique, mais dans d'autres villes, dans d'autres pays, comme d'ailleurs en Angleterre, puisqu'on a vu le cas de Colston mis dans la mer, donc à Bristol, c'était il y a quelques semaines.
À Bristol, oui. Tout à fait. Je n'ai pas été plus surprise que mes deux collègues. Anne Lafont rappelait les émeutes de 2005. Il se trouve qu'à cette époque, j'étais professeure en zone de violence en Seine-Saint-Denis, et que effectivement il y a sur l'histoire de ces violences des liens à faire, que je ne ferai pas de la même manière, mais que je fais tout de même. Après, je voudrais quand même rappeler que l'histoire de l'iconoclasme, déjà, est aussi ancien, c'est briser l'image, étymologiquement. Est aussi ancien que l'histoire elle-même de l'image, et du sac de Rome jusqu'aux événements actuels. L'iconoclasme a pu être sémantisé de diverses manières, aussi bien par des projections, parce que l'important, c'est qu'est-ce qu'on projette sur les images, plutôt que ce qu'elles sont censées représenter véritablement, ce sont les mécanismes de projection. Et voilà, les ligues fascistes aussi en 1934 se sont rendues coupables de vandalisme, de la même manière, comme l'a rappelé Emmanuel Furex, que les grands totalitarismes du XXe siècle. Donc il n'y a pas de signification absolue de l'iconoclasme, mais ça me semble être quelque chose qu'il faut absolument rappeler afin véritablement de questionner les mécanismes de resémantisation à l'égard d'œuvres. Alors effectivement, ce sont des œuvres. Pourquoi ce sont des œuvres? Comme le dit Chris Marker, parce qu'elles sont en grande partie dévitalisées. Hein,
mais c'est-à-dire qu'on passe, on passe souvent à côté d'elles sans les voir, comme le disait Emmanuel Furex. Et, mais elles ont une importance pour certains qui les voient d'une certaine façon. Et c'est ça que, qui peut-être dit quelque chose de nos sociétés. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous ne regardons même plus ces statues et d'autres les chargent symboliquement d'un sens qui leur importe politiquement aussi.
Tout à fait. Je pense effectivement que ce sont ces mécanismes de resémantisation qui sont à prendre en compte. Pour ma part, je ne vois pas, en tout cas dans l'iconoclasme tel qu'il se manifeste aujourd'hui, véritablement de lien avec, en tout cas très clair, très explicite, avec l'antiracisme. En tout cas, pas avec un antiracisme post-racial, hein, puisque le mouvement Black Lives Matter est né sous Obama et correspondait à la volonté de re-racialiser le récit. Hein. Donc, ce sont ces nouvelles projections qui sont effectuées sur. Alors, la statue est un objet très spécifique, empreinte verticalité, hein, qui a une connotation spécifique, mais qu'on peut aussi resituer dans un contexte plus général de vindicte à l'égard de la représentation. Ouais.
On y reviendra un peu plus tard. Emmanuel Furex. Ce sont aussi des statues de grands hommes. On a évoqué la querelle autour de Colbert. Or, le grand homme statufié, est-ce que cela correspond aux sociétés du 18e, aux sociétés du 19e ou aux sociétés du 21e siècle? Est-ce que c'est une question qui se pose encore? Et est-ce qu'au bout du compte, dans la querelle que nous voyons autour de ces statues, il n'y a pas aussi peut-être un usage différent de la représentation par rapport à cette Troisième République qui en a tant produit?
Oui, pour prolonger ce que disait ma collègue, je crois que elle parle de resémantisation. Cette resémantisation, si elle a lieu, elle est évidemment en étroit lien avec les grands mouvements d'éruption sociale et politique. Hein. Je dis souvent que les statues, en tout cas certaines statues, sont des sismographes de nos sociétés. Et
vous voulez dire qu'elles peuvent, elles peuvent revivre
les tensions qui les agitent. C'est vrai sous la Révolution française, c'est vrai pendant les révolutions du 19e siècle et bien au-delà jusqu'à aujourd'hui, avec un phénomène nouveau aujourd'hui, me semble-t-il, qui est celui de la transnationalisation de ces mouvements de contestation hein, depuis 2015, depuis le mouvement Roads Must Fall en Afrique du Sud. Concernant maintenant la question du grand homme, je crois que les événements contemporains traduisent une sorte de crise du régime du grand homme. Le grand homme est né à la fin du XVIIIe siècle, hein, distinct du héros saccageur, comme selon la formule de Voltaire, c'est-à-dire celui qui accompagne les progrès de l'humanité, celui qui est capable d'infléchir le cours de l'histoire par ses mérites et ses talents. Et le XIXe siècle assiste à l'apogée de ce culte de la gloire sous la forme du grand homme, avec un épisode évidemment traduit dans la pierre, qui est celui de la statuomanie, hein, c'est-à-dire cette passion nationale ayant consisté à ériger des centaines et des centaines de statues, hein, en particulier des années 1880 aux années 1930. Hein, c'est le moment où on inaugure le plus de statues et où l'on n'accompagne ces statues de passion, de rites sociaux, de rites civiques, des inaugurations. Il y a une culture de la statue du grand homme.
Il faut rappeler que peut-être le dernier grand moment de statuomanie, c'est la commande de ce qu'on a appelé les grands bronzes de François Mitterrand dans les années 80, qui, arrivant au pouvoir, a voulu rétablir ce type de commande pour dire, ben voilà, il y a des grands hommes qui manquent dans l'espace public, et on se souviendra par exemple de la statue qui a eu tant de mal à trouver sa place à Paris, la statue du capitaine Dreyfus, par Tim par exemple. Tout cela, ça fait partie de la dernière grande vague de commandes publiques venant de l'État en tous les cas.
Oui, absolument. Alors, si vous voulez des informations très précises sur cette chronologie et sur les formes de ces statues de grands hommes, il faut absolument lire le grand livre de Jacqueline Lalouette, Un peuple de statues, qui montre de fait alors les moments d'affaissement hein, de ce régime statuaire, et puis aussi une forme de renaissance depuis une vingtaine ou une trentaine d'années en particulier. Mais je le disais tout à l'heure. Des premiers signes de crise apparaissent en fait dès la fin du 19e et le début du 20e siècle, lorsque on trouve que ces érections de statues deviennent un peu excessives, délirantes, et on dénigre ces grands hommes de chefs-lieux de canton hein, qui, évidemment, ne sont pas inscrits dans un récit national, mais uniquement dans le récit
Espace.
des petites patries, par exemple, la statue de Marie Harel qui a inventé le camembert et dont la statue a été inaugurée en 1928.
Anne Lafont, quand on voit les débats autour de cet espace public dans lequel sont placées ces statues, qui d'ailleurs, cet espace public qui a profondément changé depuis le 19e siècle et le début du 20e siècle, j'imagine que ce que voyaient ces statues en 1880 ou en 1930 n'a plus rien à voir avec ce qu'elles peuvent voir aujourd'hui dans la ville d'aujourd'hui. On s'aperçoit tout de même que cette question, c'est une question entre politique et esthétique.
Oui, tout à fait. Ben oui, absolument. Je crois que c'est vraiment le cœur d'ailleurs du problème. Et peut-être que j'ajouterai juste un petit argument autour de cette question de voir, être vu. Bon, on remarquait qu'on était tous sensibles justement à la question justement de cette perception. Je crois que même lorsque l'on ne les voit plus, ces statues continuent à travailler nos imaginaires. Collectivement, et même, je dirais, d'autant plus qu'on ne les voit plus, qu'elles deviennent d'évidence, qu'elles sont, pour employer un mot des sciences sociales, naturalisées, elles ont une efficace encore plus importante. Donc il y a, heureusement, un réveil de certains d'entre nous à nous dire, attention, elles disent encore quelque chose. La grande statue de Roosevelt avec un homme noir marchant à pied, un Amérindien marchant à pied, alors qu'il est, lui, sur un cheval élancé.
Théodore Roosevelt, précisons, ça n'est pas Franklin Delano, c'est Théodore Roosevelt.
Pardon, j'aurais dû préciser, ça n'est pas anodin, si vous voulez. Et donc, il ne faut pas, parce qu'on se pense émancipé, finalement, de cette idéologie, qui serait une idéologie racialiste, tout simplement, hein, qui ferait une distinction, en fin de compte, entre l'Amérindien, le noir et le blanc sur son cheval élancé, ça n'est pas parce qu'on a renoncé à ça que ces images ne continuent pas de travailler nos imaginaires. Donc, il y a un droit, peut-être même un devoir, à y regarder de plus près, à dire comment on contourne finalement cette efficacité, hein, même, je dirais, inconsciente, et peut-être que le musée est une des réponses à ces choses-là. Par rapport à ce que vous disiez sur justement ces places, je crois que s'invente par les artistes, par les urbanistes, par les architectes, mais aussi dans un travail étroit avec les associations et les politiques, de nouvelles formes de commémoration commune, de nouveaux espaces finalement que l'on peut habiter de manière collective. Et je pense par exemple justement avec cette idée de peut-être en finir un peu avec le grand homme de la Troisième République qui ne correspond pas, je dirais, à un vœu social collectif d'aujourd'hui, il me semble en tout cas. Le mémorial de l'esclavage de Nantes est une proposition tout à fait intéressante qui réintègre le rapport justement à l'Atlantique, par le fait qu'on entre enfin, dans les entrailles comme ça stylisées d'un bateau, qu'il y a plusieurs textes de grands hommes multiples finalement qui sont mis en exergue, qu'il y a un bruit aussi qui participe de l'expérience un petit peu de la cale du bateau négrier. Toutes ces formes d'invention d'un lieu mémorable dans le sens qu'il faut investir et vivre aussi comme un parcours esthétique, hein, ce qui est une offre justement de l'art, peuvent être réinventées. Je pensais justement à des figures peut-être aussi de jeunes filles. Désormais, on a des jeunes filles comme Greta Thunberg qui sont des mouvements pour la jeunesse, des exemples pour la jeunesse qu'il est possible peut-être de réinterpréter. Et ça ne veut pas dire forcément qu'on liquide, qu'on détruit complètement la statuaire. D'autant que je voudrais rappeler un petit truc d'historienne de l'art, c'est quand même, ce sont des objets qui sont sous forme de séries, qui sont des multiples, que l'on peut aussi reconstituer, contrairement par exemple à un tableau, à un Léonard de Vinci ou autre. Donc il y a peut-être un moyen de s'asseoir et de penser finalement
collectivement.
collectivement et puis d'intégrer finalement cette offensive sur cette image sculpturale de la fin du 19e siècle et de repenser comment on recrée des espaces collectifs dans nos villes et ailleurs d'ailleurs qui soient davantage raccordés finalement aux vœux de notre jeunesse mais pas seulement de notre jeunesse.
Vous êtes l'auteur Isabelle Barméris d'une tribune dans Figaro Vox d'un entretien que vous avez donné en juin, début juin, le 9 juin, vous disiez le déboulonnage de statues est symptomatique d'un nouvel âge identitaire et vous évoquez, enfin, d'une certaine façon, c'est une expression qui a été reprise plus ou moins par le président de la République quand il a dit l'autre jour à la télévision que la République ne déboulonnera pas de statues, on assumera toute notre histoire, etc. etc. Tout ça, ça pose une question. Est-ce qu'il y a un si grand danger? Anne Lafont et Emmanuel Furex nous disent bien, tout compte fait, il n'y a pas un danger énorme à cette question de remise en question des statues dans l'espace public. Est-ce que vous pensez qu'il y a un si grand danger, Isabelle Barméris?
Alors déjà, j'ai été très étonnée par la déclaration du président Emmanuel Macron, parce qu'il me semble que depuis des années, précisément, le récit qu'il cherche à incarner est un récit de la conflictuation multiculturelle et peu républicaine des identités. Donc j'ai vu dans cette déclaration une sorte de pirouette, à vrai dire, assez du point de vue de la cohérence du discours politique, assez peu compréhensible. Ensuite, pour rebondir sur la proposition en fait d'Anne Lafont, qui serait finalement d'ériger une statue de Greta Thunberg, eh bien précisément.
Je crois que c'est pas ce qu'elle disait. Enfin, je veux pas interpréter ce que vous disiez, Anne Lafont, mais vous disiez que le type de mouvement, c'est une autre manière de se souvenir que de construire des statues. Excusez-moi, mais je crois que c'est ce que disait Anne Lafont. Anne Lafont, vous m'entendez?
Je ne fais pas de préconisation, moi. Donc, je suis dans l'observation,
C'était quand même un modèle cité en exemple, et il me semble particulièrement caractéristique de ce perspectivisme décolonial qui, aujourd'hui, et on le voit tout à fait si on analyse les statues qui sont déboulonnées, parce qu'il y a effectivement des statues de colonialistes et d'esclavagistes, et moi-même, je ne suis pas pour le grand discours schulchériste que je trouve paternaliste également, mais on voit très bien que ça excède tout à fait les questions du colonialisme et de l'esclavagisme. Et ça va se reporter sur Jules César, ça va également se reporter récemment sur Cervantes, et que ce perspectivisme décolonial contient énormément d'angles morts, puisqu'il s'agit de refaire quand même faire le bilan de l'histoire de l'humanité à travers une opposition racialisée et opposant l'Occident au reste du monde à l'aune d'un discours de la domination qui me semble extrêmement simplifié. Et Greta Thunberg, dans ses déclarations, hein, puisqu'elle elle l'associe à la fois la culpabilité écologique, la culpabilité coloniale au blanc, enfin je suis désolée, ce sont ces termes, ce ne sont pas les miens, j'essaye d'éviter au maximum la racialisation du discours. Il me semble effectivement que ce n'est pas une figure fédératrice, et le problème de l'absence de figure fédératrice aujourd'hui peut nous amener aussi à réfléchir sur les choix de la statuaire contemporaine. C'est-à-dire, il y a peu de représentations humaines. Il y a une sorte de défiguration. J'ai plusieurs exemples. Ça va du bouquet of tulips de Jeff Koons jusqu'à la statue du général Dumas, du père d'Alexandre Dumas, grand créateur de récits, hein. La question de la défiguration aujourd'hui de la statuaire excède complètement le vandalisme auquel on peut assister.
Mais peut-être aussi parce que cette question de la statuaire pose problème dans l'âge dans lequel nous nous trouvons. On va en discuter dans un instant. Je rappelle que vous écoutez le temps du débat qui se pose la question de savoir si les statues meurent aussi. Et nous sommes avec Isabelle Barméris, que vous venez d'entendre, Anne Lafont et Emmanuel Furex.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
J'aimerais tenir l'enfant de Marie qui a fait graver sous ma statue. Il a vécu toute sa vie entre l'honneur et la vertu. Moi qui ai trompé mes amis de faux serment en faux serment. Moi qui ai trompé mes amis du jour de l'an au jour de l'an. Moi qui ai trompé mes maîtresses de sentiment en sentiment. Moi qui ai trompé mes maîtresses du printemps jusqu'au printemps. Oh, cet enfant de Marie, je l'aimerais là et j'aimerais les enfants ne me regardent pas. J'aimerais tenir l'enfant de carême qui a fait graver sous ma statue. Les dieux rappellent ceux qu'ils aiment et c'était lui qu'ils aimaient le plus.
La statue, un titre évidemment de Jacques Brel. Sur ce point, Emmanuel Furex, Jacques Brel résume beaucoup ce que l'on pourrait penser. Voilà, on veut voir un modèle dans celui qu'on statufie ou de celle qu'on statufie. Et puis évidemment, celui-ci se rebelle parce qu'il ne correspond pas à l'image que voudrait donner de lui ceux qui montent la statue. Qu'est-ce qu'on peut penser de ça, justement, ces êtres parfaits qui seraient évidemment des êtres qui n'existent pas. C'est ce que disait, je crois, Mona Ozouf récemment, ou d'autres qui disaient, ou c'est votre collègue Bertrand Tillier qui disait, l'histoire est polysémique, réduire un personnage à un moment de sa vie est problématique.
Oui, c'est-à-dire qu'il faut absolument éviter de dériver sur le grand tribunal de l'histoire, c'est-à-dire passer au crible chacun des grands hommes et évaluer de manière effectivement souvent anachronique et moralisante les mérites et les défauts des uns et des autres, et réfléchir à une autre échelle d'une part, et avec un autre objet en considération, c'est-à-dire la statue elle-même et l'espace, ouais, dans lequel s'inscrit la statue.
Mais c'est pourtant au nom de la morale, justement, qu'on a élevé ces statues, pour la qualité morale de ceux qui étaient supposés être statufiés.
Oui. Oui, mais précisément,
la morale a changé.
Ces normes de gloire, ces régimes de grandeur, ces morales, évidemment, évoluent, et nous sommes en discordance avec le grand récit dominant de ces statuts de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Et de fait, il faut combler les béances de ce grand récit, mais en universalisant le débat, c'est-à-dire bien entendu que la question coloniale, postcoloniale, raciale, post-raciale, enfin raciale tout simplement, se pose et continue de se poser, alors différemment selon les espaces, bien évidemment, mais il faut élargir, à mon avis, cette question au lien de représentation entre le peuple statufié et les sociétés contemporaines
d'aujourd'hui.
De fait, les sociétés d'aujourd'hui, et de fait, 7% seulement des statues de grands hommes sont des femmes, 2 ouvriers seulement sur plus de 3000 statues, hein. Donc il y a peut-être précisément à réinventer le grand homme incarné ou la grande femme incarnée d'aujourd'hui, pas nécessairement sous la forme de statues d'ailleurs, hein. C'est peut-être des portraits plus éphémères, des fresques, etc. Mais je suis tout à fait d'accord avec la proposition d'Anne Lafont, c'est-à-dire l'idée d'habiter autrement
l'espace public.
Exactement. Ouais, ouais. En inventant de nouvelles formes, en sollicitant le regard des artistes, et en travaillant aussi avec les communautés locales, ce qui impose évidemment de poser un diagnostic sur les blessures morales ressenties par certains, de ne pas évidemment obéir aveuglément à des groupes de pression, mais quand ils existent, parce que le risque en effet est d'allumer une sorte de guerre de mémoire, parce que je rappelle, vous l'avez sans doute entendu, que une statue dédiée à l'abolition de l'esclavage a elle aussi été vandalisée par des groupes d'extrême droite avec cette inscription White Lives Matter. Donc il y a, si vous voulez, ce risque d'une lutte de blessure contre blessure. Il faut réfléchir vraiment à une autre échelle et inventer un nouveau dialogue aussi sur la manière dont les citoyens se projettent sur cet espace public.
Oui, parce que justement, Anne Lafont, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un espace public toujours négocié et renégocié, et que cette question de la place de ces statuts dans l'espace public, c'est le fruit de la négociation ou de la renégociation de leur de la mémoire d'un pays, par exemple, ou d'une cité, puisqu'on a bien insisté sur le fait que la plupart de ces statuts ont été mis en place par des municipalités pendant de très longues années, et assez rarement par l'État soi-même.
Oui, absolument. C'est-à-dire que cette idée que vous mettez de l'avant de la négociation m'apparaît très importante. Moi, quand on m'avait un peu interrogé sur justement le fait de réintituler les œuvres d'art, qui est un autre débat, mais qui a son partie liée avec celui que nous avons ce soir, je disais toujours que ce qui m'intéressait plus, c'était le débat qui avait lieu, et finalement la solution trouvée était accessoire presque, parce que c'était toujours temporaire et pas forcément définitif. Mais pour justement illustrer, je dirais, la constance de cette implication de la société civile sous toutes ses formes finalement dans l'ornementation, le symbole et l'occupation de l'espace public. Je rappellerai cette enseigne de la place de la Contrescarpe au Nègre Joyeux, qui a donné lieu comme ça pendant des années à une confrontation très civilisée, mais néanmoins forte, entre l'association des habitants de la place de la Contrescarpe, très attachée donc à cette enseigne, avec un jeune homme noir riant et étant en position manifeste de service, bien que finalement l'interprétation pourrait être un peu complexifié, et des associations noires, disons-le un peu rapidement, dont je ne me rappelle plus exactement le nom, et surtout le vandalisme, elle faisait l'objet, donc cette enseigne de jets de couleurs, etc., donc d'être endommagée. Et le conseil municipal a dû reprendre finalement cette discordance entre les deux parties et proposer le musée Carnavalet comme le lieu dans lequel l'enseigne en question pourrait être remédier dans les deux sens du terme, c'est-à-dire à donner lieu à un remède, une cure, une conservation, une restauration, et en même temps donner lieu à une nouvelle médiation où il serait expliqué quel était le sens de cette enseigne de la fin du 19e siècle, sans être désormais dans un espace où elle agissait encore, où elle agissait précisément encore vis-à-vis des passants, pouvait se sentir heurté justement par ce consentement du personnage, consentement pressenti justement à sa servitude en quelque sorte. Donc tout ce travail qui a été fait, qui a donné lieu vraiment à des négociations pendant des années, me semble être tout à fait important dans le fait qu'il y a un vœu de projet commun de part et d'autre, et qu'il peut prendre du temps à se parler, à se comprendre, à s'écouter, et qu'on ne pourra pas faire l'économie finalement de ce temps-là. Et que c'est positif, c'est pas ce qui m'indigne un peu, c'est l'effroi que peuvent représenter toutes ces manifestations. Quand on a les structures pour trouver une solution, je dirais, commune et d'avenir en plus.
Isabelle Barberis, sur la longue durée nécessaire pour pouvoir réfléchir à la manière de se parler autour de ces emblèmes.
Oui, alors, juste petite parenthèse sur la question du Nègre Joyeux. C'est un excellent exemple qui montre la manière dont les phénomènes de resémantisation peuvent être biaisées du fait de ce que je qualifie de main basse du décolonialisme sur l'antiracisme, puisque cette peinture, qui est effectivement défendue par tous les commerçants du quartier, n'est pas une représentation raciste, mais représente un jeune noir en train de se faire servir par une servante blanche. Donc au contraire, c'est une représentation, moi, que je qualifie de liminale, qui questionne les représentations, qu'il est intéressant d'exposer, mais à partir du moment, si vous voulez, où on est dans un perspectivisme total qui empêche de voir la subtilité de cette représentation, eh bien, on l'annule de l'espace public, on la fait passer dans un musée. Alors après, ça peut être
ça n'est pas la première
tous les effets de cadrage, de contrôle herméneutique que l'on peut imaginer, mais l'on biaise tout simplement le contenu de cette représentation du fait effectivement c'est l'œuvre de militants qui veulent imposer tout simplement une interprétation. Je crois pas un danger. En tout cas, je pense que c'est un bon exemple. Et j'étais d'accord avec Emmanuel Furex avec son développement jusqu'à ce qu'il commence à parler de pourcentage. Parce que moi, ce qui m'a intéressé dans ma recherche, notamment dans ma recherche d'HDR sur les questions de représentation et représentativité, c'est précisément la confusion entre les deux. Parce que quand on commence à parler de pourcentage, eh bien, on confond...
Pourcentage, vous voulez dire de femmes par rapport aux hommes, etc.
Oui, ça peut être toutes les catégories imaginables. Oui. Mais aujourd'hui, c'est ce à quoi on assiste, c'est-à-dire la représentation est confondue avec une représentativité par catégorie, et ces catégories sont, d'une part, sont extensibles à l'infini, donc elles empêchent toute forme de représentation, au bout du compte, ce n'est pas ça la démocratie, et par ailleurs... Le découpage de ces catégories est lui-même soumis à des idéologies préconçues.
Emmanuel Furex. Il était également construit par des idéologies dans le passé. C'est la discordance entre ces idéologies et celles d'aujourd'hui qui provoque, en effet, des tensions, des réclamations, etc.
On est d'accord, mais l'inversion est une manière de reconduire les idéologies du passé. Et ce que je trouve aussi intéressant aujourd'hui...
Brièvement, parce que nous arrivons au terme, je voudrais redonner la parole à Anne Lafont, brièvement, mais allez-y, très brièvement, allez-y, Isabelle.
Mais c'est que derrière, moi je suis d'accord pour dire qu'il y a un phénomène d'iconoclasme qui est dominant, mais c'est l'iconodoulie que cache cette iconoclasme.
Il faut rappeler le terme d'iconodoulie, donc...
C'est-à-dire l'amour des représentations, le fait d'idolâtrer certaines représentations. Mmh. Lorsque l'on regarde les statues qui ont été érigées, ce sont des statues qui sont représentatives de la société du spectacle, Brigitte Bardot, Mireille, Zidane, Zlatan, ou de gloire locale, puisque Emmanuel Furex faisait référence à la femme qui a inventé le camembert, si j'ai bien compris, à Marie-Arel. Et les autres idoles que l'on a, eh bien, je voudrais quand même, parce que j'aurais pas le temps de parler du général Dumas, mais parler quand même du Bouquet of Tulips de Jeff Koons. Là, nous avons une main blanche multiculturelle qui représente quelque chose d'absolument informe et très très ironique, et précisément pourquoi aujourd'hui les antiracistes ne reportent pas leur vindicte sur cette statue. Cet antiracisme-là véhicule la même idéologie que celle de l'art financier.
Anne Lafont. Voilà. Anne Lafont.
Non, pour finir, peut-être juste dire une chose à quoi je crois, c'est qu'il est important, en tout cas quand on se positionne en tant que chercheur ou chercheuse, c'est d'essayer de comprendre ces phénomènes comme étant aussi des manières d'appartenir justement à l'histoire de France, et non pas comme des rejets exclusifs. Mmh. C'est-à-dire que le fait même de se sentir heurté, blessé, c'est encore reconnaître l'existence de cette histoire. Et que peut-être si on prête une attention un petit peu généreuse envers nos jeunesses, on comprendra comment on peut imaginer justement quelque chose de commun qui ne soit pas une table rase du passé, mais bien quelque chose qui a été encore une fois remédié par le présent.
Merci à tous les trois. Merci à vous Anne Lafont, merci à vous Isabelle Barméris, et merci à vous Emmanuel Furex d'avoir débattu de cette question. Les statues meurent-elles aussi? C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Hugo Boursier, Fanny Richer, Rémi Baille. et Manon Prissé à la technique aujourd'hui, Swad Boukhorsin à la réalisation, Olivier Bétard. Demain, nous parlerons d'une question qui n'est pas très éloignée de la nôtre, à savoir y a-t-il la possibilité de faire une union nationale. Et puis par ailleurs, eh bien, je vous rappelle que la Conversation mondiale, les textes d'intellectuels, d'écrivains, d'artistes du monde entier autour de la crise que nous vivons, c'est toujours sur le site France Culture, à la page La Conversation mondiale. Hier, Emel Matlouti, une des voix de la révolution tunisienne, et aujourd'hui l'essayiste Nassim Nicolas Taleb, théoricien de l'incertitude et du hasard, qui a souhaité une conversation avec Rémi Bail, une conversation donc que vous pourrez entendre et non pas lire sur le site de La Conversation mondiale, à la page de France Culture.